On monte les marches de Cannes dans ce journal, on écoutera Demis et on parlera de Chine et de Taupo. Mais avant, c'est la situation sur le caillou qui fait la une. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Réveil douloureux ce matin pour la Nouvelle-Calédonie.
Oui, pour ceux qui ont dormi en tout cas, et ce n'est pas le cas de tout le monde dans l'agglomération de Nouméa. Après plusieurs semaines de tensions et déjà quelques heures ces derniers jours, des scènes de violence ont éclaté tout autour de la capitale calédonienne la nuit dernière. Dès le début de soirée, des incendies volontaires ont été allumés dans les locaux de nombreux commerces et sociétés. Le site industriel de la société Lefroy, important producteur de boissons basé dans le quartier ouvrier de Montravel, a été en grande partie détruit. Le feu ayant provoqué une explosion au cœur même de l'usine. Des entrepôts et docks ont aussi flambé. De nombreux véhicules exposés ou stockés en extérieur par des concessions automobiles ont été incendiés. L'heure est encore au recensement des dégâts à Nouméa, où plusieurs axes de circulation restent bloqués par des manifestants pro-Kanaki. NC La Première rapporte qu'une action avait même été lancée la veille au camp Est, principale prison calédonienne, où trois surveillants pris en otage par des détenus ont dû être libérés par le RAID. La compagnie Air Calin a annoncé ce matin l'annulation de ses vols pour la journée. Des écoles et entreprises sont aussi fermées. Le gouvernement vient de demander aux fonctionnaires de rester chez eux et un couvre-feu a été mis en place à partir de 18h par le Haut-Saria qui a aussi annoncé des interdictions de rassemblement et de vente d'alcool. Peu de victimes physiques en revanche dans cette nuit de violence. Une trentaine de gendarmes ont tout de même été blessés dans des affrontements avec les émeutiers. 36 d'entre eux ont pour l'instant été interpellés.
Et les explications sur cette situation tendue sont à trouver du côté de Paris.
Oui, et de l'Assemblée nationale qui a étudié tôt ce matin un projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie, un texte qui vient dégeler le corps électoral des élections provinciales, comme le demande depuis des années le camp loyaliste. Au terme du projet de loi, tous ceux qui résident depuis au moins 10 ans sur le caillou pourront voter, ce qui représente un apport de 12 000 électeurs natifs et 13 000 non-natifs pour le scrutin territorial programmé pour décembre prochain. Le camp indépendantiste est bien sûr farouchement opposé à ce mécanisme qui va largement profiter au parti pro-France. Il a d'ailleurs signifié par un vote du Congrès ce week-end, puisque le FLNKS et ses alliés disposent d'une maigre majorité dans l'Assemblée calédonienne. Mais Paris estime qu'il s'agit d'un impératif démocratique après 20 ans de gel et 3 référendums gagnés par les partisans du maintien dans la France. C'est ce qu'a rappelé ce matin le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin à la tribune de l'Assemblée nationale. Son texte est soutenu par la majorité présidentielle et les élus de droite et d'extrême droite, dont le député calédonien Nicolas Metzdorf, qui a tenu à adresser la question des violences dès l'introduction de son discours. Écoutez.
Je voudrais apporter mon soutien aux gendarmes, aux policiers, mon soutien à ceux qui résistent, à ceux qui ont passé la nuit enfermés chez eux, par la peur, à qui on a demandé de ne pas réagir. Je voudrais remercier les chefs d'entreprise qui ont tout perdu cette nuit, leurs docks, leurs usines brûlées. Je voudrais remercier ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés, qui sont en proie aux plus grandes des manifestations. Je voudrais aussi remercier la population indépendantiste, Kanak, qui, malgré son opposition à ce texte, n'a pas souhaité la violence. Et je condamne bien évidemment ceux qui l'ont appelé de leur vœu.
Voilà, la violence qui a été au centre des débats durant cette séance qui se poursuit. Gérald Darmanin a reproché à une partie de la gauche, la France Insoumise en particulier, de ne pas appeler au calme et de ne pas soutenir les forces de l'ordre. Les élus LFI ont répondu en accusant le ministre de l'Intérieur d'être à l'origine des tensions en ayant abandonné le consensus sur le dossier calédonien.
Votre projet de loi constitutionnelle est une bombe contre la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Cette paix civile perdure depuis des décennies, grâce aux accords de Matignon-Oudinot puis de Nouméa. Cette paix est précieuse et fragile. Il est de notre responsabilité historique de la préserver. Depuis des mois, nous vous alertons sur le risque d'embrasement que vos passages en force répétés font peser sur la situation calédonienne. Monsieur le ministre, vous manquez au rôle d'impartialité de l'État qui commande au minimum de ne pas prendre parti pour un camp. Le principe d'impartialité commande à l'État de créer les conditions du dialogue et du consensus, pas de passer en force constamment.
Mathilde Panot, députée LFI, qui est donc opposée à ce projet de loi constitutionnelle, comme d'ailleurs les députés PS, auteurs d'une motion de rejet qui n'a pas recueilli la majorité. Le groupe GDR, où siègent les 3 élus polynésiens, a annoncé qu'il voterait aussi contre le texte du gouvernement. On écoute l'élu Tavigny, Tematay Le Gaïc.
Quelle est la raison pour laquelle le gouvernement français décide de mettre en avant la question de la démocratie et du seul gel du corps électoral dans un accord unilatéral et ne pas essayer de trouver un accord global avec tous les partis? Mais qu'est-ce qu'on en fait de la moitié qui sont nés, qui naîtront demain, qui ne voudront pas de la République? Pas parce qu'ils sont contre la République, c'est parce qu'ils sont fiers d'être Kanak. Et dans ce texte, il y a cette substance qui manque. La fierté d'être Kanak, de mourir Kanak et d'être fier d'être né sur une terre kanak. Donc nous allons être contre ce projet de résolution.
Voilà un projet de loi constitutionnelle qui est toujours discuté dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Mais s'il est déjà minuit à Paris, le vote solennel ne pourrait intervenir que demain soir.
L'actualité au Fénois, c'est aussi cette inauguration du côté de la Presqu'île.
Oui, elle a eu lieu il y a quelques minutes, l'inauguration de la nouvelle passerelle du PK0. Souvenez-vous, la vieille passerelle en acier avait été fragilisée par les intempéries et les inondations du 1er mai 2023. L'installation d'un nouveau pont, évoqué déjà depuis plusieurs années, avait alors été accélérée. C'est la société Boyer qui avait été choisie pour installer la nouvelle structure de 44 mètres et 25 tonnes, construite en métropole, acheminée jusqu'au bout de la route de la Presqu'île et assemblée sur le site du chantier. Un projet estimé en début d'année à 390 millions de francs et qui s'est donc achevé aujourd'hui dans les temps puisque l'objectif était d'inaugurer la nouvelle passerelle avant la Tahiti Pro. Elle est toujours uniquement piétonne comme l'ont souhaité les habitants du PK0. Quant à l'ancienne structure, elle doit être démantelée dans les prochains mois.
Tu nous parles aussi de ce passage de relais dans le port de Papeete.
Oui, entre deux bateaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le Yuan Wang 5 qui a quitté les quais pour laisser sa place au Yuan Wang 6, un autre bâtiment chinois présenté comme un navire scientifique. La mission officielle de ces bateaux grands comme des porte-avions et bardé de paraboles géantes et d'instruments d'observation, vous en avez parlé, c'est de faire la surveillance spatiale, de servir de lien avec les satellites chinois depuis la pleine mer ou bien de suivre les lancements de fusées du très ambitieux programme spatial chinois. Ce que les autorités de Pékin ne disent pas, c'est que ces bateaux servent aussi à suivre les tirs de missiles intercontinentaux et pourraient aussi servir, d'après les États-Unis, à faire de la télésurveillance dans les zones traversées, raison pour laquelle les passages des Yuan Wang ont fait polémique par le passé, en Asie notamment. Rien de tel en Polynésie, le Yuan Wang 5-6 était déjà venu à Papeete. Son escale a été dûment autorisée par les services de l'État. En revanche, comme l'a noté Polynésie la première, aucun marin du bord n'a de visa. Tout le monde reste à bord donc.
Et puis on repart en métropole, mais cette fois-ci à Cannes.
Cannes et son festival international du film qui commencera demain. Sur la croisette, il y a bien sûr la compétition pour la Palme, les plus grands réalisateurs de la planète, les stars de tout poil qui montent les marches devant des nuées de photographes. Mais il y a aussi une partie plus professionnelle dans ce rendez-vous du cinéma mondial, le marché du film. 14 000 distributeurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes et autres négociants de la filière sont réunis à Cannes pour faire leur emplette sur les stands de quelques 200 porteurs de projets. Parmi eux, un Polynésien, Ken Carter, et sa compagne Serena, qui ont obtenu une accréditation cette année. Elle est payante, mais il faut tout de même passer une sélection pour avoir le droit de citer dans ce grand marché. Alors pourquoi l'artiste, surtout connu pour ses chansons ou ses événements de danse, a voulu aller à Cannes ? Eh bien parce qu'il se présente aussi aujourd'hui comme un producteur et réalisateur et qu'il a plusieurs projets à mettre en avant. Écoutez.
Alors on y est principalement pour Tiki. On va même présenter une trilogie en exclusivité, c'est-à-dire tu as déjà le premier film de prévu qui est déjà totalement écrit, qui est prêt, les costumes sont prêts, les acteurs sont prêts, tout est prêt. À travers ce premier volet, on vend aussi un univers cinématographique. Et à côté, il pose aussi une fiction sur la danse haïtienne, mais qui est pour l'instant au stade de projet en développement.
Ken Carter au micro de Delphine Barret, qui espère donc trouver un coproducteur et un diffuseur pour la série de Tiki, une trilogie de films d'aventure, d'action et de fantastique qui, selon lui, peut permettre de lancer une dynamique dans la filière cinématographique polynésienne.
En fait, il n'y a pas d'audiovisuel sans tête de proue. Il suffit de regarder la Nouvelle-Zélande. S'il n'y avait pas Peter Jackson et Le Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande ne serait pas aussi développée. Si on attend toujours que les autres débarquent chez nous, il se passe sera jamais rien. S'il n'y a pas des porteurs de projets, des capitaines d'industrie même, qui sont locaux et qui, on va dire, se prennent en main et décident d'y aller, eh ben, on n'y arrivera pas. Il faut avancer. Tiki, mais demain, d'autres projets vont servir et le jour où il y aura un grand succès polynésien, je pense que ce sera la figure de proue de toute une industrie. Et après, derrière, ben, il n'y aura plus qu'à continuer et à faire perdurer cela.
Voilà,
et à développer.
Ken Carter qui veut donc être le Peter Jackson et la tête de proue du cinéma made in Fénois. À voir, en tout cas le marché du film commence la nuit prochaine à Cannes.
Et des stars et des paillettes, il y en avait aussi sur notre plateau ce matin, Charlie.
En tout cas des futures stars, Damien. Les candidats à Miss Tahiti ont commencé leur traditionnel manège sur le plateau de Radio 1 et Tiale FM. 2 des 10 prétendantes au titre seront en direct tous les jours d'ici vendredi entre 8h et 8h30. Ce matin c'est donc Eleata Charpentier qui a ouvert le bal. À 21 ans, la candidate numéro 1 est pleine d'enthousiasme. En train d'humour et d'enthousiasme, un enthousiasme communicatif. Cette professionnelle patentée de l'événementiel a grandi entre Mahina Paea et même Rangiroa. Mais c'est bien de Faa dont elle est originaire. C'est là en 2019 qu'elle a remporté le titre de deuxième dauphine au concours Miss Taorua. Pas question de lâcher les podiums. Elle a animé pendant 2 ans l'élection de Miss et Mister UPF et a voulu retourner de l'autre côté du rideau. Avec ses 1m59, elle ne pourra pas devenir Miss Tahiti, mais qu'importe, c'est l'aventure qui compte.
Pour moi, Miss Tahiti, c'est pas qu'une question de centimètres. C'est vraiment bien plus, c'est de l'authenticité. Il faut être courageuse, forte et déterminée, comme je l'ai dit tout le temps, pour oser déjà pousser la porte du casting. Je suis authentique et dans cette aventure, moi, je la vis vraiment à 100% authentique. Je veux vraiment montrer ce côté-là de moi, très vrai, sans faux semblant, sans maquillage à gogo, etc. Vraiment, moi, au naturel, comme je suis dans la vie de tous les jours, en fait.
Ereata Charpentier, candidate numéro 1, qui nous a confié ce matin qu'elle aime se réveiller au rythme de la danse des canards. Elle était accompagnée ce matin de la candidate numéro 10, Harmonie Olin, une jeune femme de 24 ans qui a grandi les pieds dans le sable noir de la baie de Matavai à Mahina. Étudiante en troisième année de droit à l'université de Polynésie française, elle vit aujourd'hui à Papeete et met tout en œuvre pour devenir juriste. Ce concours, Harmonie entend l'utiliser pour sensibiliser les Polynésiens aux problématiques de santé mentale. Pour cette jeune femme, l'aventure Miss Tahiti est l'occasion de dévoiler sa féminité, mais aussi de montrer sa force. Écoutez.
On me rabaissait souvent, on ne me laissait pas le temps d'exprimer clairement ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. Et ça aurait pu m'abattre, mais au contraire, j'ai essayé de me relever de ces épreuves et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis très fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter chaque personne à surtout ne pas écouter les personnes qui ne croient pas en elles, parce que tant que vous croyez en vous, vous avez déjà tout gagné.
Croyez en vous, le message de Harmonie Olin, candidate numéro 10, qui était au micro de Vaitiare Pereire. Demain matin, nous recevrons en direct sur Radio Etiale FM les candidates 3 et 4 de ce concours Miss Tahiti 2024, Kalani Lichao Hichner et Moea Rock. Ce sera à partir de 8h sur Radio 1 et 8h15 sur Etiale FM.
Un petit retour sur les résultats sportifs du week-end.
Oui, d'abord en surf avec la performance de Tia Zebrowski qui a été sacrée vice-champion du monde U18 alors qu'elle n'a que 13 ans. La fille du snowboarder Gary Zebrowski ne représentait pas Tahiti dans ses mondiaux mais la France, ce qui n'a pas empêché la délégation polynésienne d'avoir aussi quelques succès. Kaili Emiliani Simon, Kiara Gold ainsi que Maonakea Hioe finissent tous dans le top 30 de leur catégorie. Tahiti finit à la 13e place sur 54 du classement par pays. La Polynésie